Bonsoir chers amis. Donc nous commençons notre premier cours du séminaire de master qui est consacré à un grand saint de l'Église, à savoir Saint Grégoire Palamas. Et je dois dire que c'est quand même quelque chose d'un peu spécial, d'un peu particulier, que de parler de Saint Grégoire Palamas dans le centre d'Umitru Staniloé. Parce que Saint Grégoire Palamas a joué un rôle très important dans la vie spirituelle du père Dumitru. Et nous en reparlerons. Maintenant, je voudrais simplement vous donner quelques données biographiques qui seront suivies aussi de données bibliographiques. Donc, dans le calendrier de l'Église, la mémoire de Saint Grégoire Palamas, ou Saint Grégoire de Thessalonique, est célébrée à deux reprises. Lors de la commémoration de sa mort, le 14 novembre, mais aussi le second dimanche de Carême. Le premier dimanche de Carême, nous célébrons la restauration de la vénération des saintes icônes, qui fut le fait du concile de Nicée II en 843, à la fin de la période iconoclaste. Et ce dimanche est généralement connu sous le nom de dimanche de l'orthodoxie. Si la fête de Saint Grégoire se situe le dimanche suivant, ce n'est en aucun cas un hasard. Mais cela témoigne du fait que, dans sa défense du caractère divin et incréé de la lumière du Tabor, et la victoire remportée sur les hérétiques de son époque comme Barlaam, Akindinos, Grégoras, etc., son action fut ressentie comme la continuation directe de la célébration précédente, c'est-à-dire comme un véritable triomphe de l'orthodoxie. Grégoire naquit dans une grande famille de Constantinople, qui était proche de la maison impériale. Son père fut un ami personnel de l'empereur, Andronique II, et le tuteur du futur empereur Andronique III. Dans sa jeunesse, Grégoire bénéficia pendant un temps de la direction spirituelle de Théolepte de Philadelphie. Après la mort de son père, il abandonna une carrière mondaine prometteuse. Vers 1316, il était âgé d'environ 20 ans, et il se rendit au mont Athos, accompagné par une bonne partie de sa famille, y compris d'ailleurs des nombreux domestiques. Et une partie de ceux-ci rentrèrent dans des monastères de Thessalonique. Il resta pendant environ 20 ans sur le mont Athos, mais pendant une période de 6 ans, il dut quitter la Sainte Montagne en raison des incursions des Turcs. Et il se rendit dans une grotte dans les environs de l'actuelle Veria, qu'on nomme aussi Béré, qui se trouve dans le nord-ouest de la Macédoine. Et mis à part une courte période où il vécut en cénobite, il choisit, comme Grégoire le Sinaïte, de vivre la vie hésychaste dans de petits ermitages. La règle de vie de Palamas était simple. Il restait quasiment dans la solitude totale pendant 5 jours de la semaine et se joignait à la communauté lors des célébrations de liturgie ainsi que des autres offices du samedi et du dimanche. À ce propos, on peut dire que c'est exactement la façon de vivre, par exemple, des ascètes que l'on trouve en Égypte et dont en particulier sur le site d'Ekelia. Ils vivaient séparés les uns des autres et ils se retrouvaient pour les samedis et dimanches. Durant cette période, il écrivit la vie de Pierre Latonite, qui est son premier écrit, et son traité sur la présentation de la Vierge au Temple, et peut-être aussi les chapitres de la pureté du cœur et de la prière. Vers 1335, il accepta brièvement une charge d'igoumène au monastère des Suigmènes, qui abritait alors 200 moines. Mais à Constantinople, en 1333-1334, il y avait de nombreuses discussions théologiques, qui notamment ont été causées par des envoyés, des légats du pape, qui avaient été envoyés en Constantinople en vue d'une nouvelle union des églises. C'est durant ces négociations que furent rédigés les traités apodictiques ou démonstratifs sur la procession du Saint-Esprit. Barlaam y était le représentant du patriarcat de Constantinople. Deux points firent réagir par la masse, car il risquait d'aboutir à un compromis d'union avec les Latins qui serait en leur faveur. Selon Barlaam, l'expression des Grégoire de Nazianz, principe issu des principes appliqués au Fils, lui paraissait, à Barlaam, favorable au filioque. De plus, Barlaam affirmait l'impossibilité de connaître Dieu de manière apodictique, c'est-à-dire démonstrative ou probante. Par conséquent, il rejetait l'usage de la démonstration en théologie et concluait à la vanité des discussions sur le filioque. C'était effectivement assez inquiétant et Palamas écrivit alors à son ancien ami qui s'appelait Grégoire Akindinos et qui était un proche de Barlaam. Les deux, Akindinos et Barlaam, répondirent alors à Palamas et Palamas dénonça l'influence de l'hellénisme profane chez le moine calabrais. Celui-ci alors changea de sujet et s'en prit à la spiritualité hésychaste, affirmant que la lumière vue par les hésychastes n'était pas la lumière incréée, mais une manifestation lumineuse créée. Il ridiculisait aussi la méthode de prière utilisée par certains moines, les surnommant omphalopsychi, c'est-à-dire ceux qui placent leur âme dans le nombril. Bien qu'il préférait rester dans son ermitage, Saint Grégoire se sentit alors obligé d'intervenir pour défendre l'orthodoxie et la tradition spirituelle du mont Athos. Il quitta donc la Sainte Montagne et s'installa pendant 3 ans à Thessalonique, où il écrivit les triades pour la défense des saints hésychastes. La polémique se développa, le point de vue de Grégoire fut confirmé par le concile de Constantinople en 1341, présidé par Andronique III et le patriarche Jean Calecas. En définitive, Barlaam se retira en Occident, où le pape le nomma évêque de Gérase en Italie. Mais la controverse ne s'arrêta pas là. Elle continua encore 6 ans, 1341-1347. Désormais, politique et théologie allèrent se mêler. Les principaux adversaires durant cette période furent son ex-ami et disciple Grégoire Akindinos et le savant humaniste et homme d'État Nicéphore Grégoras. Après bien des péripéties que je vous passe, la position doctrinale de Palamas fut réaffirmée le 12 février 1347. Le tome synodal de 1341 fut confirmé. Puis un nouveau concile tenu à Constantinople confirma les tomes de 1341 et de 1347. Mais, dès 1347, un nouvel adversaire, le philosophe Nicéphore Grégoras, manifesta. Et deux conciles qui eurent lieu en 1351 confirmèrent la doctrine de Grégoire Palamas et notamment la distinction entre les sens et les énergies incréées. Le tome synodal, proclamé le 15 août, entérina leur décision et excommunia tous ceux qui n'acceptaient pas la doctrine défendue par Grégoire Palamas comme conforme à l'orthodoxie. Les anathématismes contre les antipalamites furent intégrés au synodicon de l'orthodoxie et celui-ci fut lu tous les ans à compter de 1352, le premier dimanche du Grand Carême. La dernière période de la vie de Grégoras commença en 1347, parce qu'il fut consacré métropolite de Thessalonique, qui était alors la deuxième ville de l'Empire. Mais la ville étant secouée par la révolte populaire de ceux qu'on a nommés les Zélotes, il ne put prendre possession de son siège qu'en 1350. Il profita de cette période de répit et d'un peu de calme pour écrire un texte qui était un peu une synthèse de toute sa pensée. Ce sont les 150 chapitres que l'on trouve dans la Philokaï. La ville de Thessalonique ayant été profondément divisée par la révolte, il ne ménagea pas ses efforts pour réconcilier les parties en présence. Il insista dans ses homélies sur la justice sociale. Il a incité de venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux. Ces homélies sont profondément sacramentelles et complètent heureusement les autres écrits du saint. En 1354, se rendant par mer à Constantinople, il fut fait prisonnier par les Turcs et passa une année en prison en Asie mineure. Il en profita pour participer à des controverses religieuses avec les musulmans locaux. Sa rançon payée, il revint à Constantinople où il dut débattre avec Nicéphore Grégoras et de retour à Thessalonique, il dut rédiger encore deux traités contre les antirétiques de Grégoras. Dès sa mort en 1359, il fut vénéré à Thessalonique, à Constantinople et sur la Sainte Montagne. Et ce n'est seulement que 9 ans plus tard, en 1368, qu'il fut formellement reconnu comme saint. Il est aujourd'hui considéré par l'Église orthodoxe comme l'un des plus grands pères de l'Église, dont la doctrine fut canonisée par 3 conciles. Voyons maintenant de ce qu'il en est de notre époque, à l'époque moderne. Et il est intéressant de constater que, malgré toutes les difficultés liées aux circonstances historiques, je vous rappelle par exemple que la Grèce était occupée par l'Empire ottoman. La spirituelle usicaste et la pratique de la prière de Jésus réussit à se maintenir en Syrie et en Grèce. C'est ainsi qu'un jésuite, et c'est intéressant de lire les rapports des jésuites, le père Irénée Hauser, dans un opuscule sur la méthode de raison à usicaste, publié à Rome en 1927, nous raconte comment les jésuites, venus pour convertir au catholicisme les chrétiens d'Orient, se heurtèrent aux orthodoxes qui pratiquaient encore cette forme de prière et se référaient à saint Grégoire Palamas. Le premier, le père Michel Nau, vécut longtemps en Syrie et dans un ouvrage, l'Ecclésiae Romanae Graecae Quo Effigies, il consacre tout un dialogue à l'hésychasme. L'autre, le père François Richard, dans son bouclier de la foi, Targatis Pisteos, paru à Paris en 1668, nous montre qu'il est très au courant des doctrines des orthodoxes. De plus, il nous a laissé un livre où il nous parle de sa mission à Santorin. Et, conclut le père Irénée, on n'a qu'à feuilleter cette relation pour se convaincre de la place que l'hésychasme tenait alors parmi les doctrines spécifiquement orthodoxes. Les principales difficultés vinrent aux jésuites dans leur apostolat auprès des Grecs de ce qu'ils voulaient s'attaquer aux théories de Grégoire Palamas et voulaient persuader leurs auditeurs que le célèbre archevêque de Thessalonique n'était point du tout un saint. Donc, on voit que, malgré toutes les difficultés historiques, il se maintenait une pratique de la prière hésychaste et une certaine vénération pour saint Grégoire Palamas. Au XVIIIe siècle, alors que se diffusait la philosophie de Lumière, la Grèce comme la Roumanie furent l'objet d'un grand renouveau de l'orthodoxie, où la publication de la Philokalie tint une place capitale. On sait, que va se développer un mouvement qui va être notamment impulsé par Eugène Vulgaris, qui fut encouragé par le patriarche Cyril V et qui aboutira finalement à la publication de la Philokalie en 1782 par saint Nicodème l'Argyrique et saint Macaire de Corinthe à Venise. On notera que Nicodème l'Argyrique a réparé l'édition des œuvres complètes de saint Grégoire Palamas, mais son projet n'aboutit pas car l'imprimerie de Venise fut fermée par ordre du gouvernement autrichien et le manuscrit détruit par les soldats qui cherchaient des œuvres de propagande bonapartiste. Effectivement, les Grecs n'avaient pas de lieu où imprimer leurs œuvres. Dominés par les Ottomans, ils n'avaient pas d'imprimerie. Le seul lieu où ils pouvaient imprimer leurs œuvres, c'était Venise. En Occident, la théologie palamite allait faire l'objet d'attaques virulentes de la part des patrologues catholiques, particuliers au XVIIe siècle, Alassius, Peto, au XVIIIe et au début du XXe siècle avec le père Jugis, Martin Jugis. Et ces attaques allaient provoquer des réponses chez les orthodoxes. Les attaques les plus virulentes vinrent du père Martin Jugis. On les trouve dans le Dictionnaire de la théologie catholique, volume 11, publié en 1931. Deux rubriques, Grégoire Palamas et Palamite controverse, plus un article, et du même Jugis, les origines de la méthode de raison des édicastes. Dans cet article, d'ailleurs, il qualifie la prière édicaste de procédé mécanique pour arriver à bon compte à l'enthousiasme. Ne pouvant citer l'ensemble des deux articles, je bornerai à deux extraits tirés de l'article sur la controverse palamite, et l'on comprendra rapidement de quoi il s'agit. Ainsi, colonne 1777, pour l'auteur, les origines de la controverse sont à chercher dans la fosse mystique qui a commencé à se glisser dans le monachisme byzantin, à peu près à l'époque où l'Église byzantine elle-même rompait les derniers fils qui la rattachaient à l'Église romaine et maintenait tant bien que mal l'union très lâche à laquelle on s'était habitué depuis plusieurs siècles. L'occasion prochaine a été la polémique entre Barlaam et les édicastes atonites représentés par Grégoire Palamas. Nous avons montré comment, harcelés par une logique rigoureuse du moine calabrais, le défenseur des édicastes avait été amené à inventer, le mot est clairement écrit, inventer une théologie nouvelle sur l'essence de Dieu et son opération, c'est-à-dire l'énergie divine, à distinguer dans l'être divin un élément primaire et un élément secondaire, à imaginer une lumière divine internelle et incréée, mais réellement distincte de l'essence de Dieu. À propos de la controverse édicaste, il explique que Barlaam a voulu s'informer sur les pratiques des édicastes. Et voilà ce qu'on lui a dit. Cette pratique consiste essentiellement à retenir son haleine le plus longtemps possible, à répéter indéfiniment la prière « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, ayez pitié de moi », le menton appuyé sur la poitrine et le regard fixé sur le milieu du ventre ou le nombril. Cela s'appelle faire rentrer, enfermer l'esprit dans son cœur ou unir son esprit à son âme, car le ventre est considéré comme le siège de l'âme. Après un temps plus ou moins long passé dans ce laborieux exercice, l'édicace se voit rempli d'une voix ineffable, plongée dans la lumière divine. Il a trouvé le royaume de Dieu caché au-dedans de lui. C'est un avant-goût de la béatitude céleste. Cette lumière qui brille à ses yeux, c'est l'éclat même de la divinité, l'éclat d'où resplendit le Christ sur le mont Tabor au jour de sa transfiguration. Voilà à peu près ce que répondit le moine à Barlaam, qui cria aussitôt au scandale et dénonça en toute la capitale ce qu'il considérait comme un intolérable abus. De nos jours, ajoute-t-il, la fête de Palamas, et en dépit de la lettre des anathématismes contenus dans le triode, le dogme palamite dans l'ensemble de l'Église gréco-russe est un dogme à peu près mort. Non seulement il est oublié, mais il est contredit ouvertement par l'enseignement théologique officiel. Voici donc des extraits de l'article du Père Jugis. Trois points sont à relever. Savoir Palamas a inventé une théologie nouvelle où l'essence de Dieu et son opération, énergie divine, consistant à distinguer dans l'autre divin un élément primaire et un élément secondaire, à imaginer une lumière divine, éternelle et incréée, mais réellement distincte de l'essence de Dieu. Or, si l'on lit les Pères, on constate que tout ceci est complètement faux. Ce qui est quand même très surprenant. La notion d'énergie divine est largement répandue dans les écrits patristiques. Elle fut nommée au centre d'un des conciles œcuméniques, le sixième concile œcuménique, qui traita de la question du mono-énergisme. Donc, comment peut-on dire des choses pareilles? Je ne sais pas. Une pratique bizarre, presque scandaleuse, celle de la prière hésychaste, telle que caricaturée par Barlard. Bon, à sa décharge, on peut dire qu'il a interrogé un novice qui a pu présenter la prière hésychaste devant Saint-Pie. Le dogme palatinique, troisième élément, est oublié et même contredit ouvertement de l'enseignement théologique officiel. Ici, on peut noter quand même quelque chose qui a un fond de vérité. C'est que, à l'époque, la théologie, telle qu'elle a été enseignée dans les grands centres, les capitales, était une théologie qui était largement influencée par la scolastique catholique. Et ce sont dans des régions périphériques, comme on l'a vu par exemple pour les îles à Santorin, que se maintenait une tradition hésychaste et une référence à Saint-Jean Palamas. Ces attaques, qui sont quand même assez violentes, vont déclencher pas mal de réponses dans le monde orthodoxe. La première, à ma connaissance, mais à peut-être d'autres, semble être celle de Mgr Basile Kevochéine, patrologue de renom, qui publia les œuvres de Siméon le Nouveau Théologien dans la collection des sources chrétiennes. Autant le texte du J est agressif et violent, et il est, on sent bien, poussé par une passion confessionnelle, autant la réponse de Mgr Basile Kevochéine est paisible et argumentée. Monseigneur Basile va répondre aux critiques du Père Jugy, mais il va répondre aussi à celles d'Irénée à Auxerre. Et son article va apparaître en 1936 en russe, c'est la doctrine ascétique et théologique de Saint-Grégoire Palamas, et le texte va être repris dans une édition récente, Dieu, l'homme, l'Église, publié par les éditions du Cerf en 2010, pages 19 à 71. Kevochéine, donc, monsieur, ça s'écrit K-R-I-V-O-C-H-E-I-N-E. Et je vous recommande cet article, parce que c'est un article de synthèse tout à fait intéressant. Et on sent que derrière cet article, il y a non seulement une profonde connaissance des textes patristiques et de la théologie de Saint-Jean Palamas, mais qu'il y a aussi une pratique profonde. Et Mgr Basile avait passé de longues années, je crois qu'il y est resté 20 ans, au Mont Athos. Et effectivement, à cette époque, il y avait aussi une théologie académique, c'est ça dont parle le Père Jugy, qui est dominé par des influences protestantes, parfois, ou catholiques. C'est ce que le père Georges Florovski, par exemple, a appelé l'exil de Babylone de la théologie russe. Mais parallèlement, il a existé, comme en Grèce, un courant populaire, une spiritualité fondée sur la prière hésychaste, puis sur la philokalie, qui va irriguer la vie spirituelle, comme en témoignent par exemple les fameux récits d'un pèlerin russe. Le retour au Père de l'Église et à Saint-Grégoire Palamas s'inscrit donc dans une tendance de libération de la pensée théologique qui retrouve alors ses racines. Mgr Basile commence en situant la prière hésychaste dans son contexte patristique traditionnel, qui remonte aux origines même du monachisme. Il explique le sens de cette prière pour Palamas. L'erreur faite aussi bien par Hausser que par Jugy est de confondre les méthodes de la prière mentale avec son essence. Pour Hauser comme pour Jugy, l'utilisation des moyens mécaniques comme la recherche du bruit du cœur, qui a valu au Tésicas le don d'omphalo-psychique, et la répétition incessante de la prière de Jésus, aboutit nécessairement et mécaniquement à la vision de la lumière du Tabor. En bref, arriver à des états spirituels élevés semble être le résultat de la persévérance dans l'exercice de la prière mentale, et non pas le fruit de l'union intérieure de l'homme avec Dieu, et de la libre opération de la grâce divine, ainsi que cela a été en réalité enseigné par tous ceux qui pratiquaient cette prière. Quant à la méthode fondée sur la respiration, Saint Grégoire enseigne que son rôle est tout à fait secondaire. Elle est destinée à aider l'homme, et dit-il, surtout le débutant, à garder son esprit sans distraction, sinon celui-ci risque de se laisser aller à vagabonder. Il est donc recommandé de lier la prière à la respiration, surtout au début. Tant que l'hésicasque n'est pas fermement enraciné par la grâce de Dieu dans la contemplation et le recueillement. Par conséquent, cette méthode n'est en rien une obligation pour tous ceux qui souhaiteraient atteindre la perfection dans la prière. Elle est simplement recommandée, et encore, surtout pour les débutants. Cette méthode est accessoire, elle est destinée simplement à faciliter le recueillement. Le succès de la prière dépend en dernier ressort de Dieu, bien sûr. L'article de Mgr Basile est très riche, s'accompagne de notes abondantes dans lesquelles il analyse les positions des théologiens connus, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, par rapport à Saint Grégoire. Sa réfutation en quelques lignes de l'identification que fait le père Bulgakov de la Sophia avec les énergies divines incréées et brillantes. Après avoir analysé les grands thèmes de la théologie du Saint concernant la lumière incréée et les énergies divines, il conclut son article en écrivant « Pour résumer brièvement le rôle joué par Grégoire Palamas dans le développement de la pensée orthodoxe, on peut dire que l'enseignement mystico-ascétique traditionnel de l'Orient orthodoxe trouve dans son œuvre non seulement son expression systématique et achevée, mais aussi sa justification philosophique et théologique par cette doctrine de la lumière incréée et des énergies divines. Grégoire a donné une base théologique indestructible à l'enseignement mystique traditionnel de l'Église orthodoxe, puisque ce n'est qu'en partant de cette doctrine que l'on peut affirmer de manière cohérente la réalité de la communion entre Dieu et l'homme et la réalité de la déification, sans tomber dans la confusion panthéiste de la créature et du créateur qui, immanquablement, se produit si l'essence divine est identifiée à son énergie. Il n'est donc pas exagéré de comparer l'œuvre et le combat de Saint Grégoire avec les réalisations et la lutte pour l'orthodoxie de Saint Athanase d'Alexandrie. Cette comparaison nous paraît d'autant plus justifiée que, comme Athanase le Grand fit entrer dans l'usage ecclésiastique, en dépit des protestations des pseudo-traditionalistes de l'époque, nous pensons à Eusèbe de Césarée et autres semi-ariens, le terme théologique jusque-là inconnu de consubstantiel, homoousios, et qu'il exprima par lui l'ancien enseignement de l'Église grâce sur la deuxième hypostase imparfaitement formulée auparavant. De même, Saint Grégoire, grâce à un développement audacieux et à un affinement théologique de la doctrine déjà existante sur la lumière et les énergies divines, exprima et donna un fondement à l'enseignement traditionnel de l'Église sur la réalité de la manifestation de la divinité incréée dans le monde créé, sur la réalité de la communion mystique entre Dieu et l'homme, sur la possibilité offerte à l'homme de dépasser par la grâce ses limites créées sans confusion panthéiste et sans absorption dans l'être divin. En approfondissant et en élargissant les bases théologiques des données de l'expérience mystique de l'Église, Saint Grégoire Palamas a pris une place d'importance capitale et permanente. C'est pourquoi l'Église orthodoxe célèbre chaque année sa mémoire avec autant de solennité et d'amour, vénérant en lui non seulement le héros dont la vie personnelle répand une odeur de sainteté, mais un des piliers de sa théologie célestement tissée, le confesseur glorieux du grand sacrement de la piété. Je vous rappelle le tropaire de sa fête, tel que le traduit le père de Guillaume, luminaire de l'orthodoxie et docteur de l'Église où tu fus le ferme appui, ornement des saints moines et rempart invincible des théologiens, saint Grégoire Thaumaturge, gloire de Thessalonique et de la grâce le héros, intercède auprès de Dieu pour le salut de nos âmes. Il y a dans ce tropaire des accents et même un vocabulaire qui rappelle celui de l'hymne acatiste à la Mère de Dieu, et ce n'est pas un hasard. Car comme l'icône de la Mère de Dieu protégea la ville, c'est-à-dire Constantinople, des ennemis, saint Grégoire fut le défenseur de l'orthodoxie dans une période de crise. La deuxième réaction importante est bien sûr celle du père Dumitru Staneloé. L'entre-deux-guerres est un âge florissant pour la Roumanie et il est marqué par un renouveau de l'intérêt porté par les intellectuels et les théologiens à la tradition musicaste, tout particulièrement à l'œuvre de saint Grégoire Palamas. Depuis le début du XXe siècle, la théologie académique roumaine est fortement dominée par un néo-scolastique représenté dans le monde orthodoxe par Constantin Andrutsos, dont le père Staneloé fut d'ailleurs lui-même un traducteur, puisqu'il a traduit cet ouvrage en roumain, donc il savait de quoi il parlait. Le père Staneloé fut sans contexte le théologien qui contribuera le plus activement à la redécouverte du palamisme et à la popularisation de la philokalie en Roumanie. D'abord, dès 1937, il rédigea le premier exposé systématique de la vie et de l'œuvre de saint Grégoire Palamas. Ensuite, dans son premier véritable ouvrage de théologie, Jésus-Christ ou la restauration de l'homme, il insista plus qu'aucun de ses contemporains sur la notion de divinisation, entendue comme procédé à la fois inscrit dans la nature de l'homme, en tant qu'être créé et appelé à la rédemption, et comme tâche dont la purification des passions par l'ascèse constitue l'instrument. Mais c'est surtout en traduisant et en commentant tout au long de sa vie la philokalie qu'il s'imposa comme le principal porteur de ce mouvement. Je tire ces mots d'un ouvrage, de l'avant-propos d'un ouvrage du père Dumitru, qui est sur la théologie ascétique et mystique de l'Église orthodoxe, traduit récemment en français par l'édition du CERF en 2011. Et on constate que toute la pensée du père Dumitru Staneloé est influencée directement par la pensée ascétique et mystique de saint Grégoire Palamas. C'est donc en quelque sorte une sorte de retour, si je puis dire, c'est avec un grand plaisir donc qu'il nous donnait de parler aujourd'hui de cette pensée. Quant à la bibliographie, nous disposons actuellement d'instruments qui sont de plus en plus performants. Par exemple, nous avons un travail récent et très complet. Je veux parler de l'ouvrage publié dans la série du Corpus Christianorum. Effectivement, Carmelo Giuseppe Conticello, C-O-N-T-I-C-E-2-L-O, et Vasa Conticello ont publié La théologie byzantine et sa tradition. Là, je parle du tome 2, qui concerne le 13e jusqu'au 19e siècle, Brepols en 2002, dans lequel on trouve un article, Saint Grégoire Palamas, par le père Robert Sienkiewicz, S-I-N-K-E-W-I-C-K, qui est écrit en anglais. Le père Sienkiewicz est de Toronto. Et cette étude est très complète. Elle comprend une biographie, une liste des œuvres, en donnant à chaque fois le titre de l'œuvre, la date, l'édition, les traductions. Les écrits spirituels, les tomes synodaux, la vie du saint par le patriarche Lotte Kokinos, et l'office célébré par le saint, pour le saint. Une présentation de la théologie de saint Grégoire, puis les conclusions, et une biographie extrêmement complète qui va jusqu'en 2000. Enfin, une publication par l'auteur du tome de la Sainte Montagne au tome Injurite. L'ensemble représente donc un instrument de travail fort utile pour l'étude du saint. Je voudrais revenir cependant sur plusieurs points de la bibliographie. D'abord, parler de la publication des œuvres complètes. Si l'on veut vraiment pousser les choses jusqu'au bout, la première collection des œuvres complètes de Palamas fut réalisée au XVe siècle, peut-être à l'initiative du patriarche Philothée Kokinas, qui était son disciple. Elle fut déposée au monastère de la Grande Laure, mais Distillara. Elle comporte 3 manuscrits au codex. Elle se trouve désormais à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Et on peut même télécharger ces manuscrits gratuitement. L'édition Princeps des œuvres de Saint-Évoire Palamas sera celle de Thessalonique. Et elle est connue sous le nom de Syngrammata. Œuvre complète. Elle comprend 6 volumes. Le premier date de 1988 et le dernier de 2015. Elle fut réalisée sous la direction du professeur Panayotis Christou. Plusieurs chercheurs y ont contribué. Le dernier volume, publié en 2015 et qui comprend les homélies, fut l'œuvre du professeur Basile Pseudogas, PSEU. D.O.G.A.S., qui fut un collaborateur de Christou depuis le premier volume. Ces volumes nous donnent une vision critique du texte grec d'après des manuscrits. Parallèlement à cette édition, le professeur Panayotis Christou publia une étude complète des œuvres en 11 volumes, y compris avec les homélies, contenant le texte original et une traduction de celui-ci en grec moderne, en regard. Dans la série des Hélénes Pateristis Ecclesias, c'est-à-dire Père grec de l'Église, aux éditions Grégorios Opalamas, toujours à Thessalonique. Le premier volume date de 1981 et le dernier de 1986. Cette édition est extrêmement précieuse. Pour tout chercheur connaissant le grec moderne, la traduction est fiable car elle fut réalisée par le professeur Christou lui-même, lui qui avait établi les textes de Palamas. Mais voici que récemment, une traduction complète des œuvres de Saint-Grégoire, accompagnée du texte en regard, a été publiée en italien aux éditions Bompiani. Dans la collection Il Pensiero Occidentale, elle comprend 3 forts volumes, chacun ayant près de 1500 pages. Le premier volume a été publié en 2003, le second en 2005 et le troisième en 2006. Ce dernier volume plus épais comprend plus de 1800 pages, qui comprend aussi une série d'index qui couvre l'ensemble de l'œuvre de Saint-Évoire Palamas. Cette traduction est surprenante parce qu'elle est faite par un catholique, Ettore Perella, P-E-R-E-2-L-A, qui est psychanalyste. Et celui-ci, bien que n'étant pas un analyste professionnel, mais en fait, il faut bien reconnaître que beaucoup de traductions ont été faites par des analystes non professionnels, c'est le cas de la majorité, cette traduction est tout à fait recevable. Et elle peut être utile pour toute personne souhaitant traduire une œuvre ou un passage de Palamas. Cette édition est donc postérieure à la notice du père Sienkiewicz dans l'ouvrage de Ponticello. Venons-en maintenant aux études traductions disponibles en français. Les traductions d'abord. Traduction en français. Bien sûr, on connaît celle du père Jean Meyendorff. Le père Jean Meyendorff a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de Saint-Grégoire Palamas. Il a participé aussi à l'édition des œuvres complètes de Thessalonique. Bon helléniste, il avait aussi une formation de paléographe qui lui permettait de lire directement les manuscrits pour établir les textes. Sa principale traduction fut celle de la Défense des saints édicastes qu'il publia en 1959 à Louvain avec le texte grec en regard. Grégoire Palamas, Défense des saints édicastes, introduction, texte critique, traduction et notes, Louvain, 1959, en deux volumes. Cette œuvre est peut-être la principale, la plus importante, une des plus importantes en tout cas, des œuvres de Grégoire Palamas, car elle est une défense et une illustration de la spiritualité et de la prière édicaste qui faisait l'objet de violentes attaques. On trouve aussi en français 12 homélies de Grégoire Palamas, traduites par Jérôme Clerc, collection L'échelle de Jacob, à Paris, IMCA Press, en 1987. C'est un choix d'homélie, mais, bonne surprise là aussi, nous avons maintenant une traduction complète des homélies en anglais. Saint Gregory Palamas, The Homilies, Montabor Publishing, 2009. La traduction a été faite par Christopher Benjamin, sous l'auspice du monastère d'Essex en Angleterre. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées récemment et qui sont des œuvres importantes, par exemple la traduction des homélies. On trouve aussi en français, Savoir Palamas, de la déification de l'être humain, L'âge d'homme, 1990. Ce volume contient une traduction par Monseigneur et Père Paramel d'un bref traité de Saint-Gloire de la divine et déifiante participation ou de la divine et surnaturelle simplicité, suivi de la traduction d'une étude du professeur Georges Manzaridis de la doctrine de Saint-Gloire Palamas sur la déification de l'être humain. Enfin, plusieurs textes importants de Saint-Gloire Palamas sont présents dans la philokalie grecque qui a été traduite en français. La traduction en français a été faite par Jacques Tourelle, sous sa direction. Sous sa dernière forme, parce qu'on l'a trouvé d'abord, on la trouve d'abord en fascicule, ensuite il y a eu deux volumes, ensuite il y a eu plusieurs fascicules, et c'est sa dernière forme, publiée par l'abbaye de Bellefontaine. Les textes de Saint Grégoire se trouvent dans le fascicule B3, de Grégoire Palamas à Calix et Ignace Santopoulos, 2005. La traduction a été réalisée sous la responsabilité du père Boris. Parmi ces textes, on notera la traduction d'un traité adressé à la moniale Xénée, qui a été repris récemment par la Lumière de Tabor aux éditions de l'Âge d'Homme, sous le titre « Lettre à Xénée la moniale » en 2012. La traduction était celle du père Ambroise Frontrier, et surtout, un texte important, les 150 chapitres. Ceux-ci ont été réédités à partir de manuscrits par Robert Sienkiewicz, Saint Gregory Palamas, The 150 Chapters. 150 chapitres qu'on trouvait dans la philokalie ont été étudiés donc à part par le père Robert Sienkiewicz, publié à Toronto en 1988. C'est une bonne édition, texte, avec de nombreuses notes, une biographie et des index. Enfin, je voudrais vous signaler qu'on a une meilleure, à mon avis, traduction de la philokalie française en anglais. C'est-à-dire que la traduction anglaise est meilleure, je trouve, que la traduction française. Donc, si vous avez la possibilité, mais en plus, bien sûr, vous avez la philokalie roumaine. Donc, bon, ça, c'est encore autre chose. Moi, je n'ai pas accès, malheureusement, à cette philokalie roumaine. Mais je vous conseille, si vous connaissez l'anglais, de lire plutôt la traduction anglaise qui a été faite par Palmer, Sherard et Callistos Ware. Donc il s'agit du volume 4. Enfin, nous avons une autre traduction en français. Je veux dire les traités apodictiques ou démonstratifs sur la procession du Saint-Esprit. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il semble d'ailleurs que le titre originel de ce travail, de ce traité, n'ait pas été ce que j'ai à vous donner, mais a été plutôt « Contre Elata » ou « Sur la procession du Saint-Esprit ». Bref, ce qui est au cœur de ce traité, c'est la question du filioque et la réfutation du filioque. Il a été traduit en 1995 par Emmanuel Ponsoy aux éditions de l'Ancre. On peut faire plusieurs remarques. Il s'agit d'un texte fondamental dans le débat entre l'Église latine, puisqu'il traite de la question importante du filioque qui reste une pierre d'achoppement entre les deux Églises. La traduction est précédée par une importante et profonde introduction de Jean-Claude Larcher. Cet ouvrage étant désormais épuisé et la traduction pouvant en être améliorée, j'ai personnellement entrepris une nouvelle traduction qui est désormais achevée et j'espère qu'elle sera publiée rapidement par les éditions du CERF. Quelles sont les études maintenant disponibles en français? La meilleure étude, quoique dépassée sur certains points, reste la thèse du père Jean Meyendorff, Introduction à l'étude de Saint-Avoir par la masse, publiée dans la série des Patristica Sorboniensa III, Paris, Seuil 1959. Avec deux parties, une partie la personnalité de Saint-Grégoire, c'est-à-dire une vie détaillée du saint, la deuxième la pensée de Saint-Grégoire, c'est-à-dire sa théologie, plus des index. Le premier donnant la tradition manuscrite de chaque œuvre, les additions, classifications et un résumé du contenu. L'appendice 2 donne une liste des sources contemporaines. L'ensemble est suivi d'un index des noms propres, des mots grecs et des auteurs modernes cités. C'est une œuvre inégalée, toujours fondamentale pour l'abondance de son information, même si certains chapitres, comme une théologie existentielle, font un peu sourire, car il dénote un certain climat intellectuel propre à l'époque. Toujours de Père Jean Meyendorff, vous pourrez lire, par exemple, dans le dictionnaire de spiritualité, l'article Palamas, Grégoire, c'est le tome 12.1, qui donne un bon exposé de la théologie de Saint Grégoire. Enfin, on trouve un petit ouvrage du Père Jean qui est résumé très succinct de sa thèse, Saint-Avoir par la masse et la mystique orthodoxe, Paris, édition du Seuil, 1959, réédité en 2002. Le second ouvrage important, c'est celui du père du métropolite Amphilokhe Radovitch. Le mystère de la Sainte Trinité selon Saint-Éloi par la masse, collection orthodoxie, CERF 2012. Cet ouvrage que j'ai eu l'honneur de traduire est la traduction française de la thèse doctorat de Mgr Amphilokhe, publiée en 1973 en grec dans la collection du Centre Patriarcal des études patristiques Platadon à Thessalonique. Qu'est-ce qu'il se passait? Eh bien, il s'est passé que, c'est souvent le cas, on a tendance à réduire la pensée des pères de l'Église à certains problèmes philosophiques. Et en fait, en faisant cela, on détruit leur pensée. On ne les considère non plus comme des gens inspirés par l'Esprit, porteurs de Dieu, mais comme des sortes de philosophes. Et c'est le cas. C'est ce qui s'est passé pour Saint-Avoir par la masse, où on a commencé à discuter à perte de vue sur la notion d'essence et d'énergie, sur le problème de savoir s'il avait lu Saint-Augustin ou pas. Et bon. Toutes ces questions ont leur intérêt, mais doivent être resituées, et c'est précisément le travail que va faire Mgr Amphilokhe dans une conception globale. Et Mgr Amphilokhe va les placer dans leur véritable dimension, à savoir la dimension trinitaire et la compréhension patristique de Dieu qui donne un sens à tout le reste. En faisant cela, il a en quelque sorte, corrigé une déviation que connaissaient les études palamites, on va dire, en les resituant sur le point essentiel, à savoir le cadre trinitaire et la compréhension patristique de Dieu. C'est un livre profond et admirable en ce qu'il témoigne d'une connaissance et d'une assimilation par l'auteur de la pensée du saint qu'il connaît parfaitement. Malheureusement, cette mise à jour ne sera pas toujours reçue en Occident, tout simplement parce que l'on ignore souvent le grec moderne. Et l'on va continuer de discuter de problèmes qui ont été résolus depuis longtemps dans l'ouvrage de Mgr Amphiloque. Enfin, le troisième ouvrage est celui d'un dominicain. Il s'agit de Jacques Lison, Lison est L-I-S-O-N, qui est un dominicain. Il a écrit « L'esprit répandu, la pneumatologie de Gérard Palamas, collection Patrimoine Orthodoxie, Paris, CERF, 1994 ». Et je dois dire que c'est un bon ouvrage. Un bon ouvrage, écrit sans préjugés. Et il a été dirigé dans ce travail par un autre théologien catholique qui lui aussi a fait preuve d'une large ouverture et d'une compréhension de la pensée orthodoxe. Je parle du père André de Halleux de Louvain. Et personnellement, je trouve qu'on lit toujours ses articles avec profit. Mais il y a quand même un hic, quelque part. C'est que autant l'ouvrage de Lison, si vous voulez, est un bon ouvrage, sérieux, documenté, il n'y a rien à dire, mais il omet un point. Il omet un point, ce qui est quand même un peu embêtant pour la pathologie, pour la pneumatologie de Saint-Grégoire. Il omet la question du filioque. Donc c'est quand même une grosse lacune quand on parle de la pneumatologie du saint. Ceci dit, malgré tout, je maintiens que c'est un très très bon ouvrage. Et maintenant, je voudrais ajouter donc à cette brève bibliographie deux ouvrages qui me semblent tout à fait importants et même essentiels. On a vu que l'un des reproches les plus violents faits par le père Jugy à la théologie du saint était d'avoir inventé cette distinction. On sait qu'il n'en est rien. Et comme le confirment ses ouvrages. Le premier est celui de Jean-Claude Larcher, La théologie des énergies divines, des origines à Saint-Jean Damasène, dans la collection Cogitatio Fidei, Paris, CERF 2010. L'auteur retrace avec minutie les origines de la notion d'énergie divine dans la philosophie, dans les Écritures et chez les Pères de l'Église jusqu'à Saint Jean Damasène. Ce qui fait qu'il y a un tel dossier, un tel nombre de références que un dominicain, le Père Lévy, qui a fait la recension de l'ouvrage dans la revue Istina, déclare « À nos yeux, il ne fait aucun doute que la notion d'énergie incréée, distincte de l'essence divine, tout comme celle de la grâce incréée qui lui est étroitement associée, appartiennent à l'enseignement le plus vénérable et le plus constant des pères grecs. De ce point de vue, le dossier rassemblé par l'auteur est, comme le laissaient pressentir tant de travaux antérieurs, accablant pour ceux qui souhaiteraient encore nier l'évidence des textes. On touche bien ici une ligne de partage entre le monde latin et le monde byzantin. » Donc c'est un dominicain qui écrit ça dans la revue Istina, compte rendu de la théologie des énergies divines de Jean-Claude Larcher, Istina 56, 2011, numéro 3, page 172. Il est un peu surprenant, effectivement, et c'est assez grave, si vous voulez. Lorsqu'on a un auteur qui fait autorité, le père Jugy était quand même un homme qui avait une certaine envergure, écrit dans un ouvrage qui lui-même fait autorité, à savoir l'Étude de la théologie catholique, comme quoi une assertion selon laquelle Saint-Éloi Palamas aurait inventé une distinction, eh bien, après cela, cette affirmation est reproduite, souvent sans réflexion, par beaucoup de gens. C'est très grave, si vous voulez, de faire un truc pareil, parce que ça se répercute à beaucoup de niveaux, et les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier la question, sincèrement, c'est pas qu'elles soient, comment dirais-je, hostiles ou un préjugé, vont lire l'article dans l'Étude théologique catholique et vont reproduire cette pensée, cette appréciation du père Jugy. Ce qui fait que, pendant très longtemps, et même jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, on a des gens qui vont vous sortir ça, que ce que Saint-Éloi Palamas a inventé une distinction. Le livre de Jean-Claude Larcher a au moins une fonction positive, c'est de prouver, bien sûr, mais on le sait, mais enfin, il amasse tellement d'exemples et donne tellement de références que l'on ne peut pas le nier. On ne peut plus le nier. Et c'est ce que constate d'ailleurs ce dominicain dans son compte-rendu. Un autre ouvrage aussi très intéressant. Il s'agit de M. Bradshaw, B-R-A-D-S-H-A-W, donc Bradshaw, qui, dans un autre ouvrage de grande valeur, Aristotle East and West, donc Aristote Est et Ouest, Cambridge University Press 2004, va analyser dans son ouvrage, comme un fil, la notion d'énergie. C'est un magnifique ouvrage, magnifique. Il y a une différence, si vous voulez, entre les deux ouvrages, entre l'ouvrage de Jean-Claude Larcher et l'ouvrage de celui de Bradshaw. Pour Jean-Claude Larcher, la notion d'énergie n'a pas d'énergie divine telle qu'elle est reprise dans les textes patristiques, n'a pas de lien avec une origine philosophique. Alors que pour Bradshaw, elle en a un. Et il part d'Aristote, voit l'influence d'Aristote en particulier sur les néoplatoniciens, et pense que c'est de là que vient la notion d'énergie divine qui a été reprise par les pères. Donc il pense qu'à l'origine, si vous voulez, il y a quelque chose de philosophique. Donc c'est la différence entre ces deux ouvrages. Bon. Mais ces deux ouvrages sont fondamentaux et méritent vraiment qu'on les lise. Donc voilà, j'ai essayé de faire un panorama. Vous voyez, ça couvre un peu tout. Pour montrer à quel point Saint-Éloi Palamas a été un homme de la synthèse. Il a été la synthèse, il a fait la synthèse de la pensée patristique à une époque où celle-ci était attaquée par des courants humanistes, était attaquée par des courants thomistes qui remettaient en cause un certain nombre de principes patristiques. Saint-Éloi Palamas a fait cette synthèse, sa pensée a triomphé à Byzance, et par la suite, on peut dire que sa pensée va continuer d'exister sous une forme vivante au travers de textes qui vont être lus dans des milieux populaires, dans les milieux monastiques, etc., textes centrés sur la prière hésychaste. C'est-à-dire que, comme dirait un père, il ne faut pas seulement connaître la théologie, mais il faut la subir, pas faire. Il faut la vivre. Et la prière ecclésiaste est fondée en quelque sorte sur une expérience vécue. C'est ce que dira Palamas souvent. Un raisonnement peut être contrebattu par un autre raisonnement, mais qui peut aller contre la vie ? Je voudrais insister sur ce fait parce que cela explique comment cette pensée a continué à se développer dans les milieux populaires, en Grèce ou ailleurs, en Russie ou ailleurs. Comment, justement, les jésuites se sont heurtés à elle. Comment les récits d'appèlerins russes sont apparus. Et comment, finalement, le mouvement qui s'est manifesté au XXe siècle, ou fin du XIXe, début XXe, a été un mouvement de retour, en quelque sorte, à Palamas. Et on peut dire que ce mouvement de retour à l'orthodoxie, souvent par des gens qui étouffaient sous une pensée théologique, dogmatique et scolastique. Et le meilleur exemple, c'est le père Dometru Staniloé, étouffant, en quelque sorte, sous la scolastique d'Androutsos, va prendre Palamas, en quelque sorte, comme étant le centre de sa pensée et facilitant son évolution spirituelle. Je le souhaite que cela soit pour nous tous.